Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Hola viva, bienvenue dans ton podcast After Galaxy. Merci d'être encore au rendez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Abonne-toi sur ton appli. La fin de saison approche, les échéances aussi, et le mercredi 25 mai, l'AS Roma et le Feyenoord vont s'affronter en finale de la première édition de l'Europa Conference League, une finale qui va se jouer à
Tirana.
Les fans du Feyenoord n'ont pas attendu longtemps avant de remasteriser un fameux titre italien avant cette finale. Ça, c'est de la bonne musique, de la grande musique, bien sûr. Pour nous accompagner à Tirana dans cette finale d'Europa Conference League, notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Salut Johan.
Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça vaut pas Toto Coutinho, mais c'est pas mal quand même.
Ouais, je ne connais pas les remplaçants, Johan. Notre néerlandophone, néerlandophile, Kevin Diaz également est avec nous. Salut Kevin.
Salut à tous.
Vous l'avez déjà entendu cette saison dans un podcast After Galaxy dédié au derby de Téhéran, mais au-delà de sa team Melli, il est aussi un suiveur, un connaisseur assidu de l'Eurodivisie et l'un des modérateurs du compte @foot_nl. Navid est de retour parmi nous. Salut Navid.
Salut, merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir de te revoir.
Ouais, c'est cool d'être ici.
T'es spécialiste de tout au fait.
Ouais.
Parce qu'on voulait faire un podcast couscous et... Alors couscous plus... Tiramisu, est-ce que tu pourrais être là?
Ouais.
Bah, c'est possible, il mange de tout, de toute façon, la ville. Vous avez l'habitude de le voir sur la PL, sur RMC Sport, d'être abreuvé de ses stats, de ses analyses, ses histoires autour du foot. Loïc Moreau, salut Lolo.
Salut Nico.
Ça faisait longtemps aussi, toi.
Bah oui, c'est vrai.
Plaisir de te revoir.
Plaisir partagé.
Eh bah écoute, ça fait plaisir. Alors tiens, on va commencer par toi, Lolo, un peu de fact-checking. Il s'agit là de la première édition de cette toute nouvelle Europa Conference League. En termes de stats, elle donne quoi cette compète si on la compare aux autres compétitions de l'UEFA justement?
Bah, c'est pas mal, on va dire que pour une nouvelle compétition, on a vu pas mal de buts hein, cette saison. Au final, elle se place exactement entre la Champions en termes de buts par match. La Champions, c'est à 3 buts par match tout pile cette saison. Et en deuxième position, on a donc la Conference League où il y a à peu près 2,9 buts par match. Donc on est à peu près dans les mêmes standards. C'est plus que l'Europa League avec 2,7. On a vu hein, la finale hier, c'était un petit 1 partout. C'était pas fou. Et c'est vrai qu'on est quand même hypé par l'affiche de la finale. Roma Feyenoord, ça pourrait être une affiche de finale de C3.
C'est très vintage, hein, on va y revenir.
Ouais, de mais... fou.
Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Et justement, les deux meilleures attaques de la compétition se retrouvent en finale. L'AS Roma et le Feyenoord qui, en demi, ont sorti Leicester et l'Olympique de Marseille, ultimes instants de ces deux demi.
E rinvia il pallone che finisce fuori, deve fischiare adesso Jovanovic, deve... Fischia Jovanovic, fischia Jovanovic, andiamo a Tirana, Roma 1, Leicester 0, la Roma va a Tirana.
Nee, hij gaat af, ja! En alle reserves die sprinten het veld in en de spelers die in het veld stonden... Die stortte ten aarde en ik kijk naar het uitvak Dennis. Wat een feest. Feyenoord staat in de finale van de Conference League na 0-0. En ja, er zijn nog wel wat spelers die een sprint kunnen maken. Want Lucien Gintreida is als eerste bij het uitvak.
Een magnifique réaction après ses qualifications pour cette finale. Navid, je sais qu'après la qualif du Feyenoord, tu étais en transe sur le compte Twitter foot_nl.
Ouais, j'ai plus lâché le compte pendant 2-3 heures. J'étais en train de tweeter de la fête à Rotterdam, au Vélodrome. C'était exceptionnel. Franchement, je pensais pas voir un club néerlandais en finale de Coupe d'Europe aussitôt.
Alors, c'est la question que j'allais te poser. T'es surpris de voir le Feyenoord là ou pas en finale d'Europa Conference?
Ouais, un peu, parce que après le match aller contre Slavia Prague, parce qu'on avait fait match nul à domicile, et en phase de groupe, on avait juste gagné à domicile. Et on avait fait match nul à Prague, parce que Slavia à domicile, c'est tellement imprenable. Et du coup, et au retour, j'étais surpris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce Feyenoord? Elle est transformée. Ensuite, on a vu Marseille, je me suis dit, Allez, un petit nul à domicile et une défaite à Vélodrome, ça devrait le faire. Et on rentre chez nous avec la fierté, le sentiment de fierté. Et là, je suis surpris. Encore. Ah non, mais c'est que du plus depuis Slavia Prague. Pour moi, c'est que du plus.
Alors, t'es surpris. Cela dit, Loïc, c'est une finale européenne de plus pour le foot néerlandais, hein, cette qualif du Feyenoord. Hein.
C'est la 18e finale européenne pour le foot néerlandais. Grâce à cette finale, il passe devant le Portugal, Nico.
Ouais, je suis
désolé de te le dire. Mais 17 finales pour les Portugais, 18 pour les Néerlandais. Pour un bilan quand même qui est assez flatteur. 11 victoires, 6 défaites jusque-là. Et la dernière en date, elle n'est pas si ancienne que ça, puisque c'était l'Ajax qui s'était retrouvé en finale de C3 contre Manchester United. C'était en 2017. Après, pour voir une victoire néerlandaise en finale de Coupe d'Europe, il faut remonter plus loin. Il faut remonter à 2002, donc la finale de C3 remportée par le Feyenoord face au Borussia Dortmund. Et justement, le Feyenoord a cette particularité qu'ils ont disputé jusqu'ici, donc là sera leur 4e finale européenne, et les trois précédentes, ils les ont remportées. Ils ont gagné la C1 en 70 face au Celtic, la C3 en 74 face à Tottenham, et on l'a dit, la C3 en 2002 face à Dortmund. Donc ça augure aussi peut-être quelque chose de sympa pour nos amis néerlandais.
Alors Kevin, le Feyenoord est 3e d'Eredivisie, alors ils ont un bilan quasi parfait en Europa Conférence, invaincu en 12 matchs joués. Comment t'expliques toi, Kevin, cette réussite européenne du Feyenoord cette saison?
Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de fraîcheur autour de cette équipe. On en a parlé la dernière fois, notamment avec cet entraîneur. C'est une équipe qui a de la qualité. Je pense qu'ils auraient pu bien mieux faire, d'ailleurs, en Eredivisie. Ils étaient à la course pour le titre, hein, on va dire au moins jusqu'à la moitié de la saison. Et puis, ils ont un peu lâché sur les derniers mois. Mais de toute façon, c'est quand même une équipe qui avait beaucoup de talent, qui avait beaucoup de caractère. On l'a vu contre Marseille notamment, et en Coupe d'Europe, bah, ils ont rencontré des équipes peut-être à leur portée. Moi, je pense de toute façon que l'Europa Conférence, c'est vraiment une compétition qui est calibrée pour les clubs néerlandais. C'est-à-dire que tu rencontres que des équipes en général, on va dire, de plus petits pays, ça joue au ballon, il y a moins de pression. Et on a vu d'ailleurs la AZ Alkmaar qui a fait un bon parcours, le PSV Eindhoven également. Et je pense que dans les prochaines années, ça pourrait devenir la compétition des Pays-Bas.
Johan, avant d'évoquer la Roma, pour qui je pense ton cœur risque de balancer pour cette finale d'Europa Conférence, je sais que tu suis assidûment également l'Eredivisie. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans cette équipe du Feyenoord?
Comme ça, je dirais la force offensive, parce que c'est une équipe qui est vraiment très cohérente sur le terrain, mais surtout, c'est avec Arne Slot, on l'a déjà vu à la AZ Alkmaar, c'est une équipe qui fait briller les joueurs offensifs, qui sont sublimés par le style de jeu, que ça soit d'ailleurs, c'est une équipe un peu caméléon qui est capable de jouer sur attaque placée, avec des dribbleurs sur les côtés, des passeurs capables de déjouer le pressing adverse ou de trouver en tout cas les petits espaces, mais aussi beaucoup de vitesse en transition. Donc c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est qu'elle est capable de s'adapter, c'est qu'en transition elle fait très mal. Il faudra voir aussi la physionomie du match, c'est est-ce que la Roma va abandonner la possession, ce qu'elle a plutôt tendance à faire depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, ou est-ce qu'elle va prendre le contrôle du jeu, et à ce moment-là, avec les Sinisterra et compagnie sur les côtés, ça peut aller très très vite. Et puis il y a quand même dans cette équipe-là, il y a deux joueurs qui ont un QI foot très supérieur à la normale. C'est Marco Senesi en défense, qui est un super défenseur, qui n'est pas le plus athlétique, le plus grand, mais qui a une vraie qualité technique et qui est le premier joueur important dans la construction du jeu de l'équipe de Rotterdam. Et puis le deuxième, c'est Orkun Kokzu, qui lui est absolument génial, qui jouera peut-être son dernier match avec Rotterdam. Et lui, c'est vraiment le cerveau de l'équipe. Donc, il y a quand même, mine de rien, beaucoup de qualité dans cette équipe du Feyenoord.
Ouais, Coxon, on en avait un peu parlé avant la demi-finale, hein, face à Marseille. Je sais que tu le kiffes aussi, Kevin.
Ah, Kokzu, c'est vraiment le numéro 10, le meneur de jeu, le facteur X dans cette équipe. C'est lui qui déclenche beaucoup, que ce soit par ses courses, par ses passes, par ses buts aussi. Il a été vraiment ultra décisif cette saison. Et c'est vraiment le joueur qui peut mettre en difficulté la Roma dans ses déplacements entre les lignes, ses projections dans la surface de réparation. Mais je suis d'accord avec Johan, il y a quand même... cette équipe, elle sait un peu tout faire. Alors, c'est pas le grand Ajax, mais ils savent tout faire, c'est-à-dire qu'ils savent avoir la possession, mais ils sont également très à l'aise dans les phases de transition. Donc, je pense que ça va être un petit casse-tête quand même pour José Mourinho, comment aborder ce match, parce que la Roma est clairement favori.
Poi palla per Brighi, finisce qui, vinciamo ancora noi contro i campioni d'Italia, vinciamo.
vinciamo ancora noi, seconda Coppa Italia consecutiva per una stagione fantastica della nostra Roma. Siamo nella storia perché con 9 Coppa Italia raggiungiamo anche la Juventus. È veramente una stagione straordinaria da incominciare, una stagione, lo diciamo, in cui avremmo meritato anche lo scudetto, lo diciamo.
Les commentaires de la victoire de la Roma en Coupe d'Italie 2008, année du dernier titre des Romains jusqu'à ce jour. Loïc, 14 ans que l'AS Roma court après un trophée hein, quand même.
C'est long, hein?
Ah oui.
Ah, Johan, c'est long.
Sans commentaire.
Non, mais c'est vrai que là, la Roma, elle a dans le creux de la main cette possibilité justement de remporter ce fameux trophée qu'elle attend depuis 14 ans. On rappelle que c'est la quatrième finale européenne de la Roma qui en a gagné une quand même. C'était la Coupe des Villes de Foire, mais faut pas l'oublier.
Celle qui compte pas,
ça compte pas. Ça compte pas.
Bah,
comment ça, ça compte pas. Demande aux supporters de Birmingham qui avaient perdu cette finale en 61 si ça compte pas. Ils arrivent pas à endormir. Ils en font encore des cauchemars. Tu te rends compte? Non, bon, voilà, il y a cette finale de Coupe des Villes de Foire gagnée, mais effectivement, quand on pense à la Roma et son passif européen, on pense surtout aux finales perdues. La finale de 84 perdue face à Liverpool en C3 et celle de 91 perdue face au grand Inter, forcément ça laisse des traces. Et puis c'est vrai que la Roma, je le rappelle juste pour l'anecdote, aurait pu en jouer une autre.
Ah, ça c'est une belle histoire, vas-y, ça c'est marrant.
Ça c'est assez dingue, mais c'est quand on dit que parfois on a pas de chance, bah, la Roma représente un peu ces équipes qui ont pas de chance, puisqu'ils ont manqué la finale de la Coupe des Coupes en 70 après avoir perdu à la pièce, au TOS en fait, en demi-finale face au Górnik Zabrze, club polonais. En fait, ils les ont affrontés trois fois. Il y a eu match aller, match retour et un match décisif. Ils n'ont pas réussi à se départager. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas de tir au but, donc c'est parti à la pièce et ils ont loupé la finale comme ça. Donc c'était il y a 50 ans et ça reste dans les mémoires romaines comme une finale qu'on leur a confisquée en gros quoi.
Et pourtant, alors mine de rien, la Roma c'est peut-être le meilleur représentant de l'Italie sur la scène européenne depuis 5 ans. Hein.
Bah oui, carrément. C'est vrai que avec la Juve, on va dire que ce sont les deux équipes qui, sur les 5 dernières années, ont au moins franchi les huitièmes de finale. C'est vrai, quand on pense au club italien récemment, on pense à l'Atalanta qui a réussi de grosses performances. Mais la Juve a une certaine régularité au niveau des coupes d'Europe et la Roma aussi, puisque voilà, ils sont en finale de ces quatre. L'année dernière, ils étaient en demi de ces trois. Ils avaient fait aussi huitièmes de finale. On se souvient, il y a pas si longtemps. Et demi aussi de C1. Donc la Roma a une régularité aussi au niveau européen, mais là forcément ils sont tout proches de décrocher cette compétition. Donc pour l'Italie qui, on le rappelle, récemment a réussi à placer un de ses clubs en finale, le grand Inter, encore une fois, qui avait été battu par Séville en finale de Ligue Europa il y a 2 ans.
Alors, rappelons.
Et messieurs, quand on, oui, juste vas-y, Nico, vas-y, de un instant, quand on parle des finales perdues, comme l'a dit Loïc, il y en a une qui est hyper traumatisante, dont on reparle sans cesse à Rome, c'est la finale de C1-84, à domicile, Liverpool. Au Stadio Olimpico, ouais. Ah, oui. Perdu au tir au but face à Liverpool. Vous vous souvenez des images sans doute du gardien de Liverpool, Grobelaar, qui avait fait un show pour déconcentrer les...
Spaghetti.
Il fait un show pour déconcentrer les tireurs de la Roma et... Et honnêtement, c'est vraiment traumatisant encore aujourd'hui. Dès que la Roma avance dans une compétition européenne, dès qu'elle s'approche de matchs importants, d'une finale, etc., tout le monde a encore en tête cette finale perdue. C'est ce côté, comme disait Loïc, de loser magnifique en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue souvent très bien, qui gagne très peu de choses. Le palmarès vide depuis 2008 le montre évidemment. Depuis 2000, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Depuis 2000, ils ont remporté un Scudetto, ils ont terminé 9 fois deuxième. Et dans le même temps, ils ont gagné 2 Coupes d'Italie, mais ils ont aussi perdu 5 finales. C'est-à-dire que depuis 2000, 14 fois, tu as fait soit deuxième du championnat, soit finaliste de Coupe d'Italie. Donc on est vraiment sur un club de lose avec une certaine affection. Et c'est aussi une des raisons de la venue de José Mourinho à la Roma l'été dernier. C'est-à-dire essayer de renverser cet ADN, renverser la table et dire on arrête de se contenter de ce côté loser magnifique et maintenant on veut gagner.
Alors, on rappelle aussi que la dernière victoire d'une équipe italienne en Coupe d'Europe, c'était l'Inter en 2010. Hein, c'était Ligue des Champions face au Bayern, avec Mourinho d'ailleurs, aux manettes, déjà le grand Mourinho, comme dirait l'autre. On l'a souvent souligné d'ailleurs dans l'after, Johan, la C3 a du mal à susciter de l'intérêt hein, dans les médias italiens. Est-ce que ce possible premier sacre en Europa Conference League change un peu les choses, compte tenu justement de cette longue période sans titre continental en Italie?
Alors, la réponse tient en trois lettres. Non.
Ça aurait pu être oui.
Honnêtement, je pense qu'on va en parler. On en parle forcément un peu plus. Forcément, disons que le jour du match et le lendemain, si ça se passe bien, la Gazzetta dello Sport se sentira peut-être obligée de mettre en sujet principal sur la une et pas un simple petit encart à côté d'une pub pour chaussures comme lors de la demi-finale. Peut-être même que Tutto Sport, le quotidien sportif de Turin, daignera parler de cette finale, puisque je rappelle qu'ils n'ont même pas parlé sur leur une de la demi-finale alors que c'était le dernier club italien engagé en Coupe d'Europe. Mais alors moi je trouve que ça ne s'explique pas de base hein, parce que quand tu as un dernier club engagé en Coupe d'Europe, ouais. tu dois en parler quoi qu'il arrive. Mais la Roma, c'est clair que ce n'est pas le club le plus populaire d'Italie, et on est certain que si ça avait été l'Inter, le Milan ou la Juve, eh ben, les deux quotidiens dont je viens de parler, bah, ils auraient mis beaucoup plus l'accent sur les performances européennes de ces clubs-là en une, et dès la une, en fait, en quart de finale, en demi-finale, etc. Je pense que malgré tout, après ça, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, bah, on va retomber dans l'anonymat. C'est-à-dire que entre un match d'Europa League la saison prochaine de la Lazio, qui est déjà qualifié pour l'Europa League, ou de la Roma, s'ils parviennent à se qualifier, et une rumeur mercato bidon, ouais. Et bah, ça sera la rumeur mercato bidon qui fera la une des quotidiens. C'est toujours comme ça. Ils répètent erreur après erreur. Après, quand tout se passe mal, c'est les premiers médiatiquement à venir crier et dire que c'est pas normal de ne pas prendre au sérieux l'Europa League, etc. Mais quand il y a des clubs engagés, ils font rien non plus pour donner de l'importance à la compétition.
Navid, est-ce qu'on peut dire que le Feyenoord, avec ses trois Coupes d'Europe, hein, Loïc le disait il y a quelques instants, est quasi favori face à la Roma? Est-ce qu'ils se sentent finalement supérieurs historiquement, ou alors est-ce qu'au contraire, est complexe parce que c'est la Serie A, championnat qui est quand même mieux classé au ranking UEFA?
Peut-être historiquement, ils se sentent un peu au-dessus, mais c'est juste le palmarès, c'est qu'un palmarès. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que pour les supporters, ça reste quand même juste une finale de Coupe d'Europe. L'important pour eux, c'est que l'équipe se donne à fond et qu'elle mouille le maillot, c'est tout. Et je pense qu'ils savent qui ils ont en face. C'est quand même l'AS Roma qui a énormément de moyens. Il y a Mourinho. Mourinho, c'est quand même l'un des entraîneurs les plus titrés de ces 20 dernières années en Europe, je pense. Donc non, je pense que pour les supporters, ce qui compte, c'est que l'équipe se donne à fond. Et quoi qu'il arrive, ils seront fiers d'elle, parce que de toute façon, être arrivé jusqu'ici, c'est déjà un bonus.
Ouais, Loïc.
Ouais, juste pour Navid parlait de José Mourinho. Je sais que t'aimes bien le personnage en plus, mon Nico. Mais c'est quand même le premier entraîneur à atteindre une finale européenne majeure avec quatre clubs différents. Ouais. C'est quand même déjà en soi une performance énorme qu'il a déjà atteinte. Je rappelle qu'il l'a fait avec Porto, il fait C3, C1 avec Porto, il fait la C1 avec Manchester, avec l'Inter, la C3 avec Manchester United, et là la Conference League avec la Roma. Donc déjà en soi, ça en dit long sur le bonhomme.
On va en reparler de Mourinho dans quelques instants. Juste Kevin, avant, il y a un rapport de force intéressant entre ces deux équipes, hein, Feyenoord et la Roma, surtout entre ces deux clubs et leur rapport avec l'Europe même d'ailleurs. Il y a le côté éternel loser, enfin, ou du moins loser de ces dernières années que vient de souligner Johan. Et puis il y a cette grande histoire également du Feyenoord, notamment au niveau européen.
Pour les gens de Feyenoord, ils vous le diront toujours, c'est un peu comme les Marseillais, c'est à jamais les premiers à avoir gagné la Ligue des Champions, en tout cas en ce qui concerne les clubs néerlandais. Maintenant, ça reste un club qui vit forcément dans l'ombre de l'Ajax et du PSV, surtout de l'Ajax qui est leur grand rival historique. Mais voilà, après c'est un club c'est un peu comme ce genre de club où, je ne veux pas dire qu'on aime être malheureux, mais quoi qu'il arrive, ils supporteront leur club, et cette finale, elle fait du bien parce qu'ils ont connu des années un peu compliquées. Après la période d'Ike Advocaat, ils ont eu du mal à se remettre du titre gagné après tant d'attentes par Giovanni Van Bronckhorst, Dirk Kuyt et compagnie. Et c'est vrai qu'ils avaient déjà fait un bon parcours en Coupe d'Europe l'an dernier. Et je pense vraiment que là, ils rentrent sur un nouveau cycle. J'espère pour eux que leur entraîneur va rester. Et je pense qu'on peut entendre parler de cette équipe dans les compétitions européennes prochaines, sur les prochaines années, parce que je ne sais pas s'ils arriveront toujours en finale, mais en tout cas, ils ont ce qu'il faut en termes de formation, en termes de direction et en termes d'entraîneur et de qualité d'effectif pour continuer de briller sur la scène internationale.
José Mourinho, lui, va donc tenter de conquérir le premier trophée européen de l'histoire de la Roma, une finale d'Europa Conference League qui, dit-il, a un parfum de C1.
Of course, I had bigger moments than these, but I'm not feeling for myself. I'm feeling for the people. I'm feeling for my players, and this for us is our Champions League.
Voilà, c'est notre Champions League, a dit José Mourinho après la qualif face à Leicester en demi-finale d'Europa Conference. Alors tu l'as dit hein, il y a quelques instants Loïc, ce sera la cinquième finale européenne de José Mourinho. Il a gagné les quatre précédentes, hein, José Mourinho.
Il a gagné les quatre précédentes et surtout il peut rentrer dans l'histoire puisqu'il pourrait devenir le premier entraîneur à gagner, donc avoir ce trio C1, C3, C4. Ça c'est normal, on est sur la première édition de la C4. Mais le troisième a compté trois compétitions européennes majeures différentes à son palmarès. Ils sont que deux. Bon, je ne vais peut-être pas vous faire le quiz de savoir qui sont ces deux-là, parce que les noms ne sont quand même pas faciles à retrouver. Il s'agit de Udo Lattek et de Giovanni Trapattoni, qui ont tous les deux gagné à la fois C1, C2 et C3. Donc on connaît José, on sait que forcément, ramener un premier titre européen, bon, on ne compte pas, d'accord, on ne compte pas la Coupe des Villes de Foire, mais un premier titre européen à la Roma, c'est important, mais aussi pour lui, parce qu'il travaille aussi pour lui, José Mourinho. Et là, forcément, il peut encore entrer davantage dans l'histoire.
Et alors, il faut dire aussi que cette finale d'Europa Conference League, elle a aussi des enjeux importants pour la fin de saison du Feyenoord et de la Roma, notamment en vue de la saison prochaine.
Forcément, puisque le vainqueur il sera directement qualifié pour la phase de groupe d'Europa League la saison prochaine. Alors, c'est vrai que Feyenoord est troisième de son championnat, donc ils vont faire les barrages d'Europa League la saison prochaine. La Roma, elle, se dirige plus vers la Conference League hein, puisqu'ils sont sixième de Serie A. Donc forcément, là aussi, comme pour Francfort et les Rangers hier, il y a un petit plus, il y a le bonus qui est au bout de cette finale en plus.
Johan, en début de saison, on avait dédié un podcast After Galaxy sur l'arrivée de Mourinho à la Roma. Hein, je vous invite à aller à l'écouter ou le réécouter. Tu disais que l'une de ses missions était d'importer la culture de la gagne dans ce club. Hein. Tu parlais tout à l'heure des années de loose de la Roma ces dernières années. Est-ce qu'au-delà du jeu, José est en train de décomplexer l'AS Roma ?
Disons que le processus est en cours. C'est pas totalement défini, mais on sent dans la méthode, dans les propos des joueurs quand même que ça commence à bien rentrer dans les têtes. C'est clairement les joueurs qui, évidemment, en parlent le mieux et mettent tout ça en évidence, qui soulignent cet apport de Mourinho pour eux, cette exigence au quotidien, cette volonté de jamais se satisfaire des victoires, mais d'en vouloir toujours plus, de pas être content après un match nul et une défaite, et de toujours se remettre en question, etc. Donc tout ça, c'est en cours. Le problème, c'est que tu peux pas demander de changer totalement l'ADN, la philosophie, l'état d'esprit, la mentalité d'un club en l'espace de 7 ou 8 mois maintenant, c'est très difficile. Même s'il y a des choses qui sont faites aussi au niveau du club, il y a des nouveaux dirigeants, on a recruté, on a staffé encore un peu plus la partie technique, la partie physique, la partie médicale, etc. Donc tout ça, c'est en cours. Nul doute qu'en cas de victoire dans cette finale de Conference League, à Rome, on ne parlera pas de hasard que cela arrive avec Mourinho comme entraîneur. Tout comme c'était sûrement pas un hasard que le dernier Scudetto de la Roma en 2001 était avec Fabio Capello. Voilà, c'est sans doute ce type d'entraîneur-là aussi qu'il faut dans ce club-là, parce qu'il a à peu près tout essayé depuis Fabio Capello, des entraîneurs un peu à poigne, des entraîneurs romains, des entraîneurs très joueurs, des étrangers qui voulaient révolutionner, je pense à Luis Enrique, des anciens qui sont revenus comme Ranieri, comme Zdeněk Zeman. Ils ont à peu près tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, effectivement, ce choix de Mourinho, qu'on avait expliqué dans ce podcast-là, des raisons purement sur l'état d'esprit, la mentalité, l'ADN de ce club et pas sur le jeu, parce qu'on sait très bien que Mourinho ne va pas révolutionner le jeu, montre quelques signes intéressants de changement. Après, il faudra évidemment gagner cette finale pour qu'on dise et que ça se matérialise finalement.
David, est-ce qu'à Rotterdam aussi, cette finale de C4, elle a des airs de Ligue des Champions, comme disait Mourinho ?
Ouais, je pense ça. Enfin, c'est quand même une Coupe d'Europe. C'est une finale de Coupe d'Europe. Ça compte autant qu'une finale de Ligue des Champions. Et puis, Loïc l'a dit, ils ont remporté toutes les finales qu'ils ont jouées. Donc, il y a aussi ça. Ils se disent, si on peut le faire, on va le faire.
Kevin, toi qui suis aussi attentivement la carrière de Mourinho, mais aussi celle d'Arne Slot, l'entraîneur du Feyenoord, t'en penses quoi de ce duel d'entraîneurs, toi qui connais bien les deux ?
Bah, je pense que c'est un duel qui va être très intéressant à suivre entre le jeune loup, si les supporters de la Roma me le permettre, et ça ce sera plutôt à Arne Slot, et on va dire l'ancien qui quand même sur les dernières années, quoi qu'on en dise, même si j'adore José Mourinho, est quand même sur la pente descendante en termes de résultats, en termes de management aussi et de rapport avec ses joueurs. Moi, je suis vraiment curieux ce que ça va donner tactiquement. Est-ce que José Mourinho va choisir de laisser le ballon à Feyenoord ou est-ce que, au contraire, il va essayer de prendre ce statut de favori en montrant un jeu plutôt offensif, ce qui m'étonnerait. En tout cas, c'est vrai que ça va être un duel entre un entraîneur, Arne Slot, qui va vouloir lui imposer ses idées quoi qu'il arrive, même si on l'a vu contre Marseille, ils ne sont pas contre non plus jouer en bloc médian bas pour défendre s'ils sont au score, s'ils sont à l'avantage au score. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Je suis vraiment curieux de savoir quel va être le plan de jeu de ces deux entraîneurs, parce que je pense qu'il va en dire beaucoup sur leur mentalité et sur la suite de leur carrière.
Quid de l'avenir d'Arne Slot, Navid? On se demandait il n'y a pas longtemps s'il allait succéder à Ten Hag à l'Ajax. On a vu que finalement, ce n'était pas lui l'élu. Il va rester, tu penses, à Rotterdam?
Ouais, je pense qu'il va rester parce qu'il sait qu'il est sur une pente ascendante, c'est ça?
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup, il sait aussi qu'il est au début d'un projet qui peut s'installer. Et je pense que s'il fait comme la Z, il va rester 2-3 ans. Et là, il faudrait aussi voir son premier vrai mercato parce que son dernier mercato, il s'est contenté avec les moyens de Feyenoord de juste garder les meilleurs joueurs. Je pense, enfin, s'il doit aller ailleurs, je pense que ce sera un grand, peut-être un PSV, peut-être. Mais pour l'instant, je ne le vois pas partir, pas cet été en tout cas. On l'a annoncé à l'Ajax, mais bon.
Il y a une vraie hype autour de lui aux Pays-Bas, hein.
Ouais, je pense, bah, c'est un peu l'entraîneur moderne.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il renouvelle un peu ce total football qu'on connaît
Ouais.
aux Pays-Bas, avec un jeu très offensif. Je pense que il y a lui et il y a aussi de nouvelles générations qui arrivent. Là, on va déjà voir l'année prochaine, on va voir Alfred Schroeder à
Ouais.
l'Ajax. Il y a aussi son frère Zwolle qui peut être intéressant à suivre. Du coup, il y a vraiment une nouvelle génération de coachs qui arrive derrière Arne Slot, qui se confirme un peu. On va le voir l'année prochaine à Heerenveen avec, j'ai oublié le nom,
Kees van Vanderen.
Kees van Dorren.
T'accueilles des connaisseurs de.
Je pense qu'il y a aussi Danny Buijs à Groningen cette année. C'était pas mal l'année dernière. Cette année, c'était un peu moins bien. Mais ça fait partie de cette nouvelle génération d'entraîneurs néerlandais qui sont vraiment intéressants à suivre prochainement.
Kevin, je sais, on en avait un peu parlé aussi, là aussi, dans le podcast avant la demi-finale face à l'OM. Je sais que toi, Slot, tu l'avais connu comme joueur déjà. C'était un joueur hyper élégant, classe. C'est un peu ce qu'on retrouve dans son jeu aussi, finalement, au Feyenoord, ce côté joueur, justement.
Oui, il y a quelque chose qui le caractérise, et comme beaucoup de très bons entraîneurs, mais c'est l'intelligence. Moi, je regarde pas beaucoup de conférences de presse d'entraîneurs, mais lui, en tout cas, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais parce que c'est quelqu'un qui est intéressant quand il parle de jeu. Il a une franchise, il est assez honnête dans ses réponses. Il te dit souvent ce qu'il pense. Il passe pas par quatre chemins et on voit bien qu'il a une réflexion sur le jeu qui est bien au-dessus de la moyenne. Je l'avais dit, ça se voyait déjà comme joueur de foot, un excellent numéro 10 qui voyait le jeu avant tout le monde. Et on retrouve ça chez lui en tant qu'entraîneur, que ce soit dans sa communication ou dans ce qu'il propose, en tout cas dans ce que son équipe propose sur le terrain. Et vraiment, je suis vraiment curieux de savoir quelle va être sa prochaine étape en effet. Moi, je ne dirais pas qu'il ira au PSV parce que s'il doit aller ailleurs, même si ça ne plaira pas aux supporters de Feyenoord, s'il doit rester aux Pays-Bas, ce sera pour l'Ajax Amsterdam dans quelques années. Mais je pense que sinon, il ira comme beaucoup d'entraîneurs néerlandais, sûrement en Allemagne dans un premier temps. Mais en tout cas, c'est un très très bon entraîneur et gagner cette coupe, ça peut vraiment bien sûr lui permettre de passer un cap dans sa carrière.
Ancora battuto!
Dessus zoekt dan gelijk de plek, want Toornstra gaat hem voorgeven. Hey,
is dit geen Hens?
Hens, Toornstra, dit moet er gelijk maken
Dessus,
worden. Dessus,
Dessus!
Ja! Cyril Dessus wacht helemaal niet tot de 92e minuut, maar zijn derde kans is bingo. Cyril Dessus met de gelijkmaker.
Il cross in mezzo verso Garza.
Il gol de Dabbi! Il gol della Début de Tammy Abraham et Cyril Dessers, les meilleurs buteurs de cette Europa Conference League. On va les retrouver en finale, Loïc.
Ouais, bah c'est deux joueurs incroyables, deux joueurs qui ont des trajectoires vraiment, vraiment différentes. Mais là, ils ont impressionné tous les deux. Tammy Abraham, qu'on imaginait quand même pas être aussi efficace pour son arrivée à la Roma. Et donc, compte déjà 9 buts. C'est pas rien, c'est rare chez les Anglais. Pour vous donner un petit peu de contexte, il n'y a que Alan Shearer en 2004-2005.
Ouais, ça remonte. Ouais.
Ouais, et Stan Bowles, attends, en 76-77, qui avait marqué plus de buts pour un joueur anglais sur une campagne européenne. Donc, c'est pas anecdotique ce qui fait Tammy Abraham. Alors, on pourra dire oui, c'est la C4, oui, ceci, oui, cela. Mais mine de rien, il a ses 9 buts et il est vraiment impressionnant. Et alors, que dire de Cyril Dessers? Lui, c'est absolument incroyable. C'est le meilleur buteur. Il a un parcours qui est complètement dingue. Et il forme avec Luis Sinisterra une paire offensive assez folle. Et surtout, ce qui est intéressant dans le profil de Dessers, c'est que il est bon des deux pieds. Sur les 10 buts qu'il a marqués, il en a marqué 4 du pied droit, 4 du pied gauche. Il en a marqué un de la tête et un d'une autre partie du corps. Donc, c'est assez fou. Il est complet, il est très complet. C'est vraiment un mec qui est intéressant à suivre.
Tiens, on va commencer par Abraham. Il a coûté 40 millions d'euros à la Roma l'été dernier, Johan. C'est l'une des recrues les plus chères de l'histoire du club. C'est la deuxième, d'ailleurs, je crois, la plus chère du club. Et c'est pourtant un pari réussi déjà, Johan.
Oui, c'est un pari réussi parce qu'il a beaucoup marqué évidemment dans cette Conference League. Il a aussi beaucoup marqué en Serie A. Il apporte. Alors, il faut savoir déjà que quand il arrive, il y a un héritage assez pesant avec le départ de Dzeko, qui certes restait sur deux saisons un peu moyennes, mais Dzeko, c'est de mémoire le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Roma. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a pesé dans l'équipe de la Roma ces dernières années. Et c'était clairement pas simple et c'était pas fait parce que finalement il n'avait pas énormément de références non plus, notre ami Tammy. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a un profil qui est très intéressant, je me répète, mais pour notamment une équipe de Mourinho, c'est-à-dire que quand l'équipe a le ballon, il est très bon dans les appels, il est assez intelligent dans la lecture des situations et donc dans les réponses qu'il apporte à ces différentes situations, comment il bouge, comment il se déplace, comment il fait des appels, soit vers le ballon, soit en fuyant le ballon et en allant un peu plus en profondeur. Et puis, quand la Roma décide de jouer en transition, c'est quelqu'un qui va quand même assez vite, qui prend très bien la profondeur. Alors, parfois, ça fait des hors-jeux un peu grossiers, mais quand ça passe, c'est évidemment dangereux. Il peut marquer plus de buts, ça c'est clair. Mourinho répète sans arrêt qu'il attend encore plus. L'autre jour, il disait au micro de DAZN après un match de championnat, non, mais moi, je félicite pas Tammy. Je lui dirai jamais que ce qu'il fait, c'est bien. Il est tellement capable de faire plus que moi, j'attends encore plus de lui, etc. Parfois, il peut sans doute aussi un peu mieux gérer sa frustration. En fait, c'est quelqu'un de très expressif sur le terrain. Ça s'est un peu calmé au cours de la saison. Quand il arrivait au début, il y a même des coéquipiers qui lui faisaient un peu des remarques parce qu'à chaque fois, lever les bras quand le ballon arrive pas, soupirer, souffler, crier, etc. Ça lui faisait à la fois perdre un peu de concentration et ça agaçait aussi un peu ses coéquipiers. Là-dessus, je trouve qu'il a bien progressé et puis c'est quelqu'un qui est hyper généreux en fait. Et de toute façon, il faut l'être pour être dans une équipe de Mourinho. Ouais. Si t'es pas ouais. généreux sur le terrain, quel que soit le poste, tu joues pas. Mais lui, il se dépense comme un malade. Il finit régulièrement avec des crampes. C'est pour ça que parfois, il a du mal à finir les matchs aussi. Et puis, c'est un. Ce qui m'a le plus surpris, c'est pas ses buts, c'est pas son profil, c'est que c'est un leader émotionnel de l'équipe. C'est lui qui encourage en premier ses coéquipiers au coup d'envoi. C'est lui qui va remettre un peu de pression quand ils ont marqué un premier but et qu'ils peuvent se laisser aller. C'est lui qui va remotiver tout le monde quand ils viennent d'encaisser un but. Je trouve qu'il se comporte comme un leader malgré son jeune âge. Et puis en plus, il est adoré par les fans. Il est adoré parce qu'il s'est super bien intégré. On l'a vu chanter l'hymne, alors quelques paroles, hein, parce qu'il ne parle pas italien. Donc il chantait Roma, Roma, Roma. C'est déjà ça, on va dire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui limite danse sur l'hymne, etc. Donc c'est évidemment une arrivée très réussie et très coûteuse. Quand on le compare au joueur le plus cher, Patrick Schick, bon, c'est le jour et la nuit, en fait, la première saison de ces deux hommes-là, Lorma.
Kevin, tu l'avais souvent commenté hein, lorsqu'il évolue en Première Ligue, notamment à Chelsea, Tammy Abraham sur RMC Sport. Est-ce que tu es surpris par ses perfs et finalement sa si rapide adaptation à l'AS Roma?
Non, je ne peux pas dire que je suis surpris parce que moi je trouve que que Chelsea a été un peu ingrat d'ailleurs avec Tammy Abraham, ils l'ont prêté dans un premier temps. Alors, il faut savoir quand même que Tammy Abraham, en Championship, qui est un championnat ultra relevé, qui est vraiment pas loin d'être le très très haut niveau, même si ce n'est que la seconde division anglaise, il met quand même 26 buts avec Aston Villa. L'année d'après, il met 26 buts avec Bristol. Là, il en est à 24 avec la Roma, et avec Chelsea, sur 82 matchs, il en met quand même 30. Donc c'est en première ligue, donc c'est énorme. C'est vraiment un excellent attaquant. Moi, je suis d'accord avec Johan, il sait un peu tout faire. Il peut encore travailler son jeu de tête, même s'il met une très très belle tête en demi-finale. Mais sinon, il va vite, il est rapide, il est technique, il est élancé. C'est vraiment un beau joueur de foot, c'est un bon attaquant. Et pour moi, bien sûr, si on le compare avec Cyril Dessers, c'est pas la même classe d'attaquant. Mais vraiment, Tammy Abraham, c'est un joueur qui est vraiment une très très bonne pioche malgré son prix. 40 millions d'euros, oui, c'est cher, mais honnêtement, je pense qu'il les vaut. Là où il m'a un peu surpris, c'est qu'il s'est aussi vite adapté à un nouveau championnat. Et puis travailler avec José Mourinho, c'est pas facile, il faut être fort dans la tête. Il va sûrement le faire progresser, le faire s'endurcir, mais vraiment, c'est un excellent attaquant.
Et alors, Abraham et les 40 millions d'euros qu'il a coûté, alors ça équivaut aux sommes déboursées par le Feyenoord lors de ses 5 derniers mercato. Alors c'est vrai, hein, tu le disais tout à l'heure, Navid, c'est deux réalités différentes, hein, le Feyenoord et la Roma, la Serie A et l'Eredivisie. Et Dessers, finalement, alors qui est prêté par Genk à Feyenoord, il cristallise le savoir-faire, hein, des Néerlandais en matière de recrutement, finalement.
Ouais. Alors en fait, déjà 40 millions, c'est deux tiers du budget de Feyenoord. Ouais,
voilà.
On voit déjà le fossé. Et ouais, en fait... Oui, les clubs néerlandais, ils ont tendance à pas mal dépenser. Pas en mercato, mais en interne, ils dépensent pas mal. Et du coup, en général, pour bien finir l'année, ils doivent pas mal vendre. Et finalement, ils ne font pas exception. Du coup, avant le Covid, par exemple, ils vendaient presque le double de ce qu'ils achetaient. Et du coup, pour faire cette différence, il faut recruter intelligemment. Les Pays-Bas, ils adorent recruter.
Vas-y,
ouais. Kevin.
Non, j'allais dire, la grosse différence avec les clubs néerlandais par rapport à pas mal de championnats, et je peux vous en parler, et on le voit avec Cyril Dessers, mais on l'a vu aussi avec Sébastien Haller, avec Dusan Tadic, avec David Neres, c'est qu'en fait, les joueurs progressent. À la base, Cyril Dessers, c'est un bon joueur qui vient de Belgique, et qui signe au NAC Breda en deuxième division. Et qui progresse, il passe un cap, il va à Utrecht. L'Utrecht, c'est un peu haut pour lui. Et là, par contre, il explose à l'Heracles Almelo. Mais je veux dire, vraiment, c'est un championnat.
Après, à Genk, il plafonne quand même, Kevin.
Tu travailles tes bases, où tu travailles tes gammes. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que je ne le mets pas du tout dans la même case que Tammy Abraham. Mais c'est un joueur qui était peut-être un joueur moyen, mais qui a progressé. Et qui là, à Feyenoord, il est remplaçant, hein, sur les premiers mois. Ouais. Il a quand même, si vous regardez le nombre de matchs titulaires en championnat,
il est remplaçant,
c'est sur les
en championnat,
semaines qu'il est vraiment titulaire indiscutable. Oui, mais en championnat, il était quand même souvent remplaçant.
Oui,
donc,
c'est ce que tu dis. En fait, voilà, en championnat, il est remplaçant et en conférence, il joue.
Voilà, c'est ça. Donc, mais maintenant, il est même titulaire en championnat. Enfin, il a fini l'année titulaire aussi en championnat. Il a gagné sa place, quoi. D'ailleurs, devant un joueur que j'aime aussi beaucoup, que Nadim doit connaître, c'est Alireza Jeanbakhsh. Je sais pas si je dis bien son nom.
Non, tu le dis pas
bien. En tout cas, l'Iranien, c'est
son nom. Alors, en fait, mentir.
Je le dis pas bien.
Non, c'est Jeanbakhsh.
Moi, je dis Alireza, mais voilà. Ouais. Mais voilà, Jeanbakhsh. Et en fait, c'est vrai que Cyril Dessers a réussi à s'imposer petit à petit. Il a travaillé, mais je suis pas sûr que Feyenoord devrait faire all-in sur lui, par exemple, sur la saison prochaine, sachant qu'ils ont pris un Brésilien comme Danilo qui vient de l'Ajax et qui est aussi un joueur de grande qualité.
Vas-y, pour finir, un avis sur ton explication sur la politique.
Cette politique de recrutement, c'est de recruter pas cher, faire venir des Néerlandais qui sont partis, qui n'ont pas réussi. On l'a vu à Utrecht récemment, ils ont fait venir un ancien qui était parti à Greuterfurt, de PSV, il était parti à Greuterfurt l'été dernier, ou encore des anciens qui sont passés par... les clubs néerlandais, comme l'a dit Kevin avec Dessers, qui est passé par Heracles Almelo, où il a été très bon, mais il est parti à Genk parce que voilà, Genk a plus de moyens que Feyenoord, et en fin de compte, on a vu, il n'a pas trop bien réussi, et du coup, il est revenu. C'est un peu comme ça que presque tous les clubs néerlandais travaillent, surtout Feyenoord, qui n'a pas forcément les moyens d'un Dan Friedkin à la Roma, qui peut mettre des millions comme ça.
Il a un parcours assez dingue, ce dessert, sans plus, Loïc.
Ouais, bah, c'est ce qui est marrant, c'est que il est nigérian, Cyril Dessers, mais son père est belge, pardon, et sa mère nigériane. Et c'est vrai que il a mis, c'est ce que disaient Navid et Kevin, il a mis longtemps à éclore. Au final, il a
27 ans déjà.
Voilà, c'est ça. C'est pas un tout jeune. Et comme le rappelait Kevin, il était pas la majeure partie de la saison, il n'était pas titulaire en championnat. C'était l'attaquant star, mais en Europa, tu vois. C'est pour dire que Arne Slot faisait tourner aussi en Europa, et il a eu cette réussite qui est assez incroyable. Et là, le truc, c'est qu'on ne sait pas justement si Feyenoord va le garder ou pas. Alors, il est évalué à 4 millions d'euros. Alors, on parlait de Tammy Abraham, 40, lui, 4 millions d'euros. Ah, et il y a des supporters du Feyenoord qui ont lancé une campagne de crowdfunding, tu sais, pour essayer de se cotiser pour payer son transfert, parce que forcément,
une
c'est
cagnotte.
Une cagnotte. Oui,
alors,
c'est vrai que j'aurais
pu faire des anglais. Un financement participatif.
Merci beaucoup, Navid, bravo.
Non, mais c'est vrai qu'au lieu de faire vachement attention à la façon dont j'allais le prononcer, j'aurais dû dire ça m'aurait, ça m'aurait aidé.
Surtout que tu l'as prononcé à la française, c'est ridicule.
Ah bon, bah merci, merci Nicolas. Bon, enfin, ils essayent de se cotiser en gros pour payer le prix du transfert. Bien évidemment, ça se fera pas, mais c'est dire à quel point il a marqué les esprits, les supporters veulent qu'il reste. Après, voilà, 4 millions, c'est vrai que dit comme ça, comparé à Abraham, c'est pas beaucoup, mais comme le rappelait Navid, pour un club néerlandais, ça pèse. Et comme le rappelait Kevin, forcément, est-ce que tu vas mettre 4 millions sur un mec qui est même pas, enfin, qui a pas été titulaire tout au long de la saison? Pas sûr.
Après 20 buts en 40 participations, c'est pas mal. Hein.
Alors, pour le cas de Dessers, parce que j'ai lu une interview, enfin un extrait d'interview de Frank Arnesen hier soir. En gros, il disait que il était en train de signer à Leganés en Espagne.
D'accord.
Et ils l'ont chopé dans les dernières heures du mercato d'été. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de négocier un potentiel contrat sur la longue durée. Donc, même s'ils lèvent l'option d'achat, ils sont obligés d'obtenir son accord à lui. Et il a dit, mais on ne pourra pas l'empêcher de se servir de son année à Feyenoord pour aller signer ailleurs un meilleur contrat.
Johan, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, c'est exactement ça en fait. C'est exactement l'anecdote que j'allais raconter sur le fait que normalement, quand tu fais un prêt, tu te mets d'accord sur une option d'achat, sur une durée de contrat derrière et un salaire. Le problème, c'est que là, avec les performances européennes de Dessers, ils sont en train de se dire s'il y a des clubs qui viennent, ils vont lui proposer plus d'argent que nous. Donc nous, derrière, on pourra pas. En fait, la difficulté, c'est pas les 4 millions d'euros. La difficulté, c'est quel salaire on va lui donner. Et surtout, s'il a des propositions salariales beaucoup plus élevées ailleurs, nous, on pourra pas matcher. Donc c'est ça la vraie difficulté. C'est même pas l'option d'achat.
Les gars, pour terminer, alors on le disait tout à l'heure, hein, la Roma, la saison, elle n'est pas finie non plus en Serie A, puisqu'il y a un dernier match important face au Torino pour une éventuelle qualif européenne via le championnat. Petit tour de table, là, petit prono là, pour cette finale. Loïc.
Moi, je joue à la Roma, mais parce que José.
C'est ça que j'aime entendre. Navid.
Ah, c'est chaud.
Ah, mais c'est ça, chaud, c'est pas une réponse,
que bon mon réalisme dirait AS Roma.
Ouais.
2-1.
Mais ton cœur dit.
Mais mon cœur dit Feyenoord.
Oh là là là. Alors quoi, le cœur ou la.
Avec un petit but d'Alisa Jan Barsch.
Voilà. Tu peux demander à Kevin, il le prononce super bien.
Mais franchement, Sinisterra aussi. Enfin, il y a tellement de joueurs.
Allez, un prono là, Navid, mouille-toi là.
Allez, 1-2 pour Roma.
Pour la Roma quand même, ok. Kevin.
Non, moi je reste sur le cœur Feyenoord.
Feyenoord vainqueur. Johan, je te demande même pas.
Non, c'est pas la peine de demander. Et puis maintenant, je sais que je n'adresserai plus la parole à Kevin d'ici pendant au moins une semaine.
T'auras attendu longtemps quand même.
Et toi, Nico?
Bah moi, je suis pour José à fond, moi. José Football Club.
Donc Roma aussi, alors?
Non, je suis pour José. Moi, je m'en fous de la Roma.
Ah, donc José, alors. José, José.
En vrai, j'aime bien la Roma. Tout le monde aime la Roma.
Moi, je suis imprécisé juste un truc.
Il veut José qui marque de la tête à la dernière
minute. Ouais, exactement. Vas-y, Navid.
Au sein de l'équipe de Foot NL, on a tendance à faire pas mal de pronostics. Et on est souvent des chats noirs, du coup, à...
Ah, c'est pour ça que t'as dit la Roma.
On a fait ça pour Marseille, ça a marché, du coup pourquoi pas.
Eh bah écoute.
Ouais, mais Navid, ça fallait pas l'expliquer, maintenant que tu l'as expliqué, c'est contre Kemps. Ah, mais...
Non mais t'inquiète, on l'avait déjà expliqué entre nous aussi et ça a quand même marché pour Marseille, donc je me dis que ça va marcher encore.
Messieurs, ce podcast touche à sa fin. Merci Navid, qu'on retrouve sur le compte Twitter @foot_nl, mais aussi sur celui dédié au foot iranien, @foot iranien. Merci beaucoup Navid, tu reviens quand tu veux.
Je me permets juste de saluer l'équipe FootNL, Nico, Mathieu, Alban et Thomas.
Et bah c'est fait, on les embrasse aussi. Allez, réécoutez d'ailleurs hein, le podcast After Galaxy sur le derby Téhéran. Merci Loïc Moreau, que vous retrouverez sur RMC Sport, bien entendu. Sur
toujours un plaisir.
Merci beaucoup. Merci Kevin Diaz.
Salut à tous.
Et merci, merci beaucoup Johan Crochet.
Merci à vous.
Merci Jérôme Thomas à la production. Merci à Suzanne Folli à la réalisation. On se quitte avec deux jolis chants de supporters du Feyenoord et de la Roma. Merci à vous. Bisous. Prenez soin de vous.
After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.